cette nouvelle émission du CEP hors studio. Et oui, la radio se déplace jusqu'à la faculté de théologie protestante à l'occasion du comité de rédaction du CEP. Et le rédacteur en chef, bien sûr, était là et je salue Nicolas Boutier.
Bonjour Guylaine.
Bonjour. Alors, nous sommes réunis pour évoquer le dernier numéro du CEP de juin 2018, dont le dossier porte sur le thème « La Bible de toute façon ». Bon, rien d'extraordinaire dans ce dossier. Je veux dire, il est dans la droite ligne de ce qu'on attend d'une église protestante.
Et d'un journal qui communique pour son église, c'est vrai.
Voilà.
Oui, un vrai dossier protestant sur la Bible.
Alors, j'aimerais revenir sur votre édito. Et je dois dire, Nicolas Boutier, que j'apprécie énormément vos éditos du CEP. Je les apprécie, je ne le dis pas non pas parce que vous êtes là, parce que nous sommes là ensemble, mais parce que là, vous donnez vraiment une parole personnelle, vous décalez la réflexion justement du dossier, justement de des nouvelles d'église en général, et puis vous partez d'un petit fait divers qui vous est arrivé. Voilà, là c'est juste une réflexion sur le temps, mais que vous ramenez bien sûr à la Bible.
Ce mois-ci, ce qui est assez rare d'ailleurs, mon édito replonge dans le dossier. En général, je fais plutôt un billet d'humeur sur un événement qui s'est passé dans la société et qui m'a frappé au moment où j'allais écrire mon édito. Et là où j'ai décidé de replonger un peu dans le dossier, dans la lecture de la Bible, parce que c'est finalement quelque chose de très protestant. On a l'habitude de dire que les protestants se plongent dans la Bible, la lisent régulièrement, mais si on regarde bien, j'ai l'impression que ça a un peu changé. Et la Bible, si elle est toujours présente sur les rayons des bibliothèques, n'est plus vraiment présente sur les tables de chevet.
Alors, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on pourrait lire ce dossier sur la Bible, finalement, pour nous redonner envie à vos lecteurs et lectrices qui sont a priori protestants. Et il est question beaucoup dans ce dossier de l'interprétation des textes bibliques.
C'est assez intéressant en fait comme dossier. Moi j'étais pas surpris parce que c'est des choses qu'on connaît, mais de replonger dedans, de se reposer des questions, c'est plutôt intéressant. Et ça ouvre différentes possibilités. C'est-à-dire qu'on se rend compte que on a un gros livre qui se présente devant nous avec des milliers de pages. Et comment on l'aborde, comment on plonge à l'intérieur, comment on lit les textes, comment on peut les interpréter, qu'est-ce qu'on peut en sortir ? C'est pas si facile, finalement. On peut l'aborder de plein de façons. Et ces différentes façons ont été présentées dans le dossier. C'est ça qui est intéressant. C'est pas juste qu'est-ce qu'il y a dans la Bible et comment elle est composée. C'est vraiment comment la lire et comment la comprendre.
Oui. Et ce que je trouve, ce que j'y ai trouvé de particulièrement intéressant, c'est que ce soit le pasteur Antoine Nouis, que ce soit le professeur d'Ancien Testament, Danny Noquet, qui intervient à nouveau dans le numéro du CEP, que ce soit aussi Noémie Woodward, qui est pasteur, tous nous disent finalement, OK, il y a un texte biblique, mais il y a aussi beaucoup d'interprétations possibles, et toutes sont possibles, au fond.
C'est ça, une espèce d'universalité du texte. Et il y a des choses dures, il y a des choses belles, il y a des choses qu'on n'a même pas envie d'entendre, et pourtant elles y sont. Il faut faire avec, et on peut toujours en sortir quelque chose pour nous aujourd'hui. En fait, c'est une espèce de texte qui a traversé des millénaires et qui peut rester très contemporain. Mais forcément, il faut le retravailler, ce texte. Il a été écrit à un moment donné. On ne peut pas le lire comme ça aujourd'hui, j'allais dire naïvement, je ne sais pas si c'est le terme, mais dans un sens très premier.
Pas au pied de la lettre.
Pas au pied de la lettre. Et donc, le retravailler, l'interpréter et le faire nôtre pour nous au XXIe siècle.
Donc, un dossier biblique qui montre qu'il n'y a pas qu'une seule lecture de ces textes-là. Bien au contraire, les interprétations sont multiples et toutes acceptées à partir du moment où elles sont cohérentes.
C'est ça. Ce qui est intéressant, il y a un article qui se présente à deux visages, qui est écrit par deux pasteurs. Une pour dire la méthode historico-critique est très utilisée et super, et l'autre pour dire finalement, moi, elle m'intéresse peu. Et ce qui est intéressant, c'est de lire les deux. Alors, méthode historico-critique, c'est de se dire, on replace le texte dans son contexte pour essayer de comprendre pourquoi il a été écrit comme ça et pouvoir justement le réinterpréter d'une façon plus contemporaine. Et l'autre qui dit, finalement, le texte, il faut le laisser venir à soi, tout seul, il n'y a pas besoin de... Et finalement, ce que je trouve qui est intéressant, c'est de les avoir mis en confrontation parce que les deux sont possibles. C'est-à-dire qu'il est, sur certains textes, peut-être un peu difficile, ça vaut le coup de le retravailler, d'aller voir un peu, de gratter son histoire, sa rédaction. Et puis sur certains textes, il n'y a pas besoin. Ils sont limpides d'eux-mêmes. Et donc, il faut en profiter et les prendre comme ça.
Donc voilà un beau dossier sur la pluralité des lectures bibliques. Lorsqu'on feuillette ensuite le numéro, on partage des informations qui concernent des régions proches des Cévennes Languedoc-Roussillon, Centre-Alpes-Rhône notamment, et puis surtout Centre-Alpes-Rhône. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais j'aimerais m'intéresser au reportage que vous avez mené, Nicolas Boutier, sur cet atelier Grisou qui se basait au Vigan. Vraiment une belle double page, très déjà esthétiquement, à l'image même de cet atelier, j'ai l'impression.
Oui, et pour une bonne et simple raison, c'est que c'est eux qui m'ont fourni les illustrations. C'est l'immense chance qu'on a pu avoir d'avoir des professionnels qui nous fournissent de très bonnes images. Et ça se ressent dans la présentation du reportage. Une super rencontre, vraiment, entre, j'allais dire, un Cévenol d'origine, mais aux multiples ascendances.
Donc Grégoire
Dantan et son épouse.
Shizu Ono.
C'est ça, qui est donc japonaise et qui vient d'une région au Japon qui, de ce que j'en ai compris, lui fait penser aux Cévennes. À la fois, alors je ne sais pas si c'est tant par les paysages que par la façon dont les populations ont évolué économiquement. Et donc, elle se retrouve un peu dans cette région comme si elle était dans son Japon natal. Et puis, ce qui est intéressant, c'est leur travail, surtout. Ils ont de scénographie, de muséographie, d'exposition. Le travail qu'ils ont fait au Japon, qui est absolument remarquable. Et ce qu'ils font aujourd'hui beaucoup pour les églises. On peut les retrouver au Temple de l'Oratoire. On les retrouve à l'Assemblée du Désert. C'est eux qui font le programme du Louvre, à Paris. On les retrouve au Temple de Maglone, où ils ont fait une exposition sur les diaconesses, à l'Assemblée du Désert, où ils font le programme et l'affiche. Enfin, vraiment, voilà, ils sont très intéressés par le milieu protestant. Lui est d'origine protestante. Elle aussi, oui et non, parce qu'elle reste quand même japonaise, donc plutôt bouddhiste. Mais le principe au Japon, c'est qu'on n'est pas vraiment attaché à une religion. On se balade. Et elle a toujours été très intéressée par les protestants. Elle a beaucoup suivi les églises protestantes. Et quand ils ont décidé de marier, elle ne s'est pas posé la question. Elle aurait dû aller dans un monastère bouddhiste. Et elle a dit, moi, je veux que ce soit mon pasteur qui me marie. Et son futur mari a dit, très bien, ça tombe bien, je suis aussi protestant. Et alors voilà, bon, je ne sais pas où est leur protestantisme aujourd'hui, mais il y a un esprit de tolérance, d'ouverture, d'éducation des enfants, de transmission qui est remarquable.
Et ils ont des enfants
C'est une très bonne question. Je pense que oui, mais je ne leur ai pas posé la question. Mais je pense que oui. Mais ils ont beaucoup travaillé pour les collèges autour du Vigan pour proposer des programmes, enfin vraiment faire découvrir sur la tolérance, vraiment des choses remarquables et toujours très bien mises en scène.
Alors, je les ai découverts peut-être avec vous, peut-être les connaissiez-vous avant que nous les voyions ensemble à Maguelone pour l'exposition sur les diaconesses de Reuilly. Et nous nous étions extasiés tous les deux sur vraiment la qualité de leur travail en se disant, voilà à quoi peut ressembler une belle exposition d'église.
Exactement.
Parce que c'était vraiment, c'était pas juste des panneaux accrochés sur un mur, il y avait l'univers même des diaconesses était dans cette exposition retranscrit, réinterprété, resitué dans ce temple.
C'est ça. En fait, c'est un peu ce qui se passe dans toutes leurs expositions. C'est que, alors pour les diaconesses, c'était encore plus fort. C'est-à-dire que les tissus qu'ils ont utilisés, c'est le tissu des robes des diaconesses. Et ils ont utilisé des objets de leur quotidien qu'ils ont présentés sur des petites étagères devant des photos. Il y avait assez peu de texte, finalement. Et c'est ça. On plongeait dans le quotidien des diaconesses. À l'image du livre, d'ailleurs, sur lequel ils sont basés.
Le livre qui est paru aux éditions Olivetan, un livre de Karine Bouvatier et Frédéric Azatsu.
Exactement. Et en fait, je les connaissais pas. C'est vrai qu'on s'est extasiés ensemble sur cette exposition. Et je les avais, sans le savoir, découverts au Musée du Désert, où chaque année, dans le hall du musée, ils font une petite expo sur le thème de l'année. Et c'était sur l'année Luther. Et j'avais trouvé la façon de présenter cette expo où Luther... absolument remarquable. On avait l'impression d'avoir des origamis, c'était beaucoup de pliages, de découpages. Et dans le hall du musée, il y a des trous dans le sol qui sont vitrés. Et il y a des choses qui sont présentées à l'intérieur. Enfin, vraiment, c'était une très belle réalisation. Et puis finalement, voilà, j'ai fini par les rencontrer et les croiser.
Et puis, dans ces pages 14 et 15 du numéro du CEP, donc de juin 2018, vous donnez en avant-première, en exclusivité mondiale, vous nous dites, l'affiche de l'Assemblée du Désert pour 2018.
Exactement.
Donc, elle est vraiment à aller regarder là-bas.
Allez la voir. Je n'en dis pas plus. Il faut aller la découvrir.
Elle est mignonne comme tout. Allez, on fait une pause musicale, Nicolas Boutier.
Vous écoutez le CEP sur le réseau FM Plus 91 FM à Montpellier, 103 points à Nîmes. Une émission animée par Guylaine Dubois et Nicolas Boutier.
Nicolas Boutier, nous sommes ici en déplacement à la faculté de théologie protestante pour parler du numéro de juin 2018 du CEP, dont le dossier dont nous avons parlé tout à l'heure porte sur la Bible, les lectures de la Bible. Nous intéressons maintenant aux actualités nationales avec notamment une navigation pour les chrétiens d'Orient, la route du Liban, vous avez intitulé cela.
Alors c'est un projet qui est en train de se mettre en place pour juin 2019. Alors c'est vrai que j'en ai parlé avec quasiment un an d'avance pour de l'actualité.
Oui.
C'est pas grave, le projet m'intéressait et en fait c'est soutenu par beaucoup de membres de notre église. Et en fait ils vont traverser pendant un mois la Méditerranée, d'étape en étape, d'escale en escale, pour sensibiliser les populations à la situation des chrétiens en Orient et finir. Donc ils partent de Marseille et ils arrivent jusqu'au Liban, en direction de Beyrouth. J'ai aussi fait cet article parce qu'en fait, bien sûr, c'est une opération qui n'est pas anodine. Il n'y a pas qu'un seul bateau qui part, il y en a plusieurs. Donc il faut organiser ça aussi financièrement. Et ça permettait, en publiant cet article, de faire un appel aux dons. Donc je vous donne une adresse, ce n'est pas pour vous pousser à, mais si ça vous intéresse, vous aurez de toute façon aussi des informations plus précises sur le site internet. Alors vous pouvez écrire à contact@soschretien-d'orient.fr. Et je pense que si vous allez sur le site soschretien-d'orient.fr, vous trouverez plus d'informations si le sujet vous intéresse, mais il y a quelque chose qui se prépare et c'est plutôt intéressant de le suivre.
Est-ce que vous avez envie de revenir sur la nouvelle équipe dirigeante de la CAT ?
Alors, en fait, on peut en parler très rapidement. En fait, on en parle dans le journal beaucoup cette fois-ci, parce que l'Assemblée générale nationale, s'est tenue à Agde cette année. Et donc, il y avait pas mal de représentants de notre région qui y étaient. Et en fait, lors de cette Assemblée générale, il y a la nouvelle présidente qui vient d'être élue. Donc il faut que je retrouve son nom.
Celle que l'on surnomme la Madame la peine de mort. Bernadette Forain.
Voilà, exactement, qui vient d'arriver et qui reprend de main de maître cette grande association.
À suivre. Si nous continuons à tourner les pages, nous avons envie de nous arrêter sur les nouvelles régionales, bien sûr, avec deux articles. L'un sur un nouveau livret liturgique dans l'ensemble des vallées Cévenoles. Ça bougerait ? Est-ce que ça bougerait dans les recueils de chants ?
Alors, est-ce que ça bouge ? Je ne sais pas si le chant en lui-même bouge, mais c'est sur la présentation.
Voilà.
Et en fait, c'est quelque chose de très dynamique. En fait, c'est comme un petit livre glacé, donc un peu épais, qui tient bien, et où ils ont décidé de mettre en un seul livret les différentes liturgies du temps de l'année. Donc le temps de l'Avent avec le temps de Noël, le temps de Carême avec Pâques, le temps ordinaire.
Donc c'est pas tous les chants, c'est vraiment les chants.
C'est les spontanés, ce qu'on appelle les spontanés, voilà,
qui reviennent
tous les dimanches.
Tous les dimanches.
Et ils ont préparé à chaque fois plusieurs modèles pour que l'assemblée ne se lasse pas de dimanche en dimanche de chanter toujours les mêmes chants. Donc c'est plutôt intéressant. Puis ils l'ont fait imprimer. Ça a été maquetté par Sandrine Gallia et imprimé. Et donc, il y a un petit livre qui reste, qui est plutôt esthétique, qui est plutôt bien fait, et qui a un côté didactique. C'est-à-dire qu'ils expliquent pourquoi la liturgie est dans ce sens-là, pourquoi on utilise le chant à ce moment-là, quel genre de chant, quel genre de prière, pourquoi la liturgie de notre Église est organisée comme ça. Donc, c'est plutôt intéressant.
Quand je pense parfois au livret liturgique que nous avons à l'entrée du temple, en papier plus ou moins plié, tellement usé que... On n'arrive même plus à tourner les pages. Je crois que ça, c'est une très, très bonne initiative.
C'est, en fait, Il y a de l'esthétique. Et je trouve que c'est dans nos églises, on l'oublie souvent.
Esthétique, pédagogie, ça c'est formidable.
Exactement, c'est vraiment le principal. C'est un vrai outil d'accueil. Mmh. Et c'est ce qu'il y a à l'entrée du temple. Donc c'est quelqu'un qui rentre pour la première fois, c'est ce qu'il va avoir dans les mains. Et s'il arrive avec un peu d'avance, il a le temps de le feuilleter. Et on lui explique ce qui va se passer d'ici un quart d'heure.
Voilà.
Et quand on ne connaît pas, je pense que ça peut être rassurant de se dire, ben, je sais où je vais.
Donc, si je comprends bien, c'est la pasteure Marie-Lies Vorwinden.
Marie-Lies Vorwinden qui a mis ça en place dans sa paroisse, enfin, avec toute une équipe d'organisation. Ça a été assez long, le temps de trouver les partitions, de choisir les partitions, préparer les accords pour les guitares, je crois aussi. Donc, ils ont vraiment fait un travail remarquable en français. Mais comme on est dans les Cévennes et qu'il y a en été beaucoup de touristes, il y a en projet une traduction en anglais et en néerlandais.
Voilà. Le chantier est en cours.
Exactement.
Est ouvert, nous dit-elle, à la fin de son article.
Une très belle interview.
Oui. Ouais. Donc, une interview menée par Stéphane Lombardo.
Exactement.
Juste en face, un article de Romy Legrand, qui est pasteur proposante dans notre région.
Oui.
Sur
le consistoire de la Gare d'Oninque.
Voilà.
Et à Bagnols-Pombourg.
Bah voilà, vous commencez à connaître toute la région.
Je commence un petit peu à connaître la région. Je n'y suis pas encore allée, mais je maîtrise la carte.
C'est ça. Alors, sur le label Église Verte.
Oui, le consistoire de Gardon-Rhône, en fait, c'est assez intéressant parce que ça fait partie des consistoires, je trouve, qui travaillent beaucoup ensemble. C'est-à-dire que souvent, le consistoire, c'est une réunion administrative de nos églises. Donc, plusieurs paroisses forment un consistoire. Et c'est un consistoire qui travaille beaucoup ensemble. Et donc, ils organisent plusieurs journées comme ça dans l'année. Il va y en avoir encore une au mois de juin. Et là, ils avaient décidé d'organiser une journée pour les jeunes et pour essayer de les sensibiliser à l'écologie et à l'avenir de notre planète. Dieu sait qu'elle est en danger. Et ils ont travaillé sur ce label qui vient d'être créé, Église Verte. Et donc, ils ont interpellé les jeunes sur ces problèmes d'écologie. Qu'est-ce qu'on va faire? Où va-t-on? Et qu'est-ce que vous, jeunesse et avenir de l'Église et puis de la planète, qu'est-ce que vous allez pouvoir transmettre et comment vous allez pouvoir travailler.
Donc des questions écologiques à la fois peut-être pratico-pratiques sur la gestion du temple ou plutôt des grandes idées théologiques sur écologie et création.
Je pense que c'est plutôt des idées théologiques, même si on pourrait très bien réfléchir, je ne sais pas si on est jusque-là, sur paroisse et engagement écologique, mais c'est plutôt sur, en rapport avec les textes bibliques, comment on peut retrouver cette écologie, ou du moins la création, rien que ça, te dire mais pourquoi on détruit cette création, voilà, des choses comme ça qui ont été abordées pendant ce week-end.
Est-ce qu'on a fait le tour de ce numéro du CEP de juin 2018, Nicolas Boutier ?
On a vu pas mal de choses, déjà. Pour ceux qui lisent les pages, vous avez en page 36 un agenda, puisque au mois de juin, quand est-ce que c'est ? Le fin juin, le mardi 26, a lieu la nuit des veilleurs. Donc, des gens qui vont prier ensemble pour les victimes de la torture. Et donc, on a recensé les différents lieux où ça se déroulait dans notre région, sachant qu'on a découvert que Lunel n'était pas inscrit, mais il y a aussi, tournez-vous vers la paroisse de Lunel, donc il y a Alès, Montpellier, 7, l'ensemble de la gare d'Oninque et l'ensemble entre Schiste et Granit. Donc chacun ont des veillées de prière pour la CAT.
Donc rappelons-le, le CEP, c'est ce journal de la région Cévennes-Languedoc-Roussillon pour le protestantisme, un magazine sur lequel il faut faire passer nos annonces d'église pour que chacun et chacune puisse en prendre connaissance.
Exactement. N'hésitez pas à donner vos informations. C'est comme ça que vous pourrez les diffuser, qu'elles seront le mieux connues.
Merci Nicolas Boutier.
Merci Guylaine.
Au revoir.
Au revoir.